Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et à 8h ce dimanche 10 mai 2020, c'est Agnès Bonfillon qui vous accompagne et vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et avec à la une le ciel aussi a fait son grand nettoyage avant le déconfinement.
Oui, des pluies diluviennes se sont abattues dans plusieurs régions après une mini-tornade à Langonnette dans le Morbihan. La région parisienne a eu droit à un véritable déluge. À certains endroits, il est tombé parfois l'équivalent de 3 à 4 semaines de pluie hier soir. Au-delà des nombreux éclairs qui ont fondu le ciel de la capitale, certains endroits de la ville se sont retrouvés inondés très rapidement. C'est ce qui s'est passé aussi à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Les pompiers ont dû alerter les habitants pour éviter qu'ils ne sortent. Ceux qui étaient en voiture à ce moment-là ont eu bien de la peine, comme a pu le constater Fabrice depuis chez lui.
Dans une des deux voitures, il y avait 4 jeunes qui étaient dedans. Et voilà, qui ont préféré monter sur le toit de la voiture. Quand les pompiers sont venus pour les évacuer, finalement, ils leur ont juste dit de sauter, de descendre et puis de rejoindre la partie où il y avait plus d'eau. Ben voilà, mais deux fois dans la journée, on a eu ça le matin et puis le soir.
Un témoignage recueilli par Véronique Stourm. Attention, hein, Valérie nous le disait, on n'est pas à l'abri que cela recommence aujourd'hui. 10 départements sont en alerte orange, notamment dans le sud-ouest et le centre.
Et du coup, on se souviendra de la météo de ce dernier jour de confinement.
Après 8 semaines à limiter au maximum ses déplacements, remplir des attestations, souvent ne pas voir ses proches, à quoi va ressembler ce dimanche? Nerissa Emani a posé la question à Laura, une étudiante lyonnaise de 25 ans.
Dernier jour en appartement, confiné avec mes colocs, du coup, ça va être plutôt beauté, sport à la maison, les derniers petits Skype avec les copains et les copines de la fac, et du coup, dernier coup de téléphone à la famille, avant de se retrouver en vrai. Il y a des gens qui me manquent, ma mère, mon copain, que j'ai pas vu depuis 2 mois. Hâte de se retrouver.
Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Et côté politique, quel programme pour l'exécutif? Eh bien, dernier jour de confinement, tout en sobriété, d'après vos informations, Vincent Derosier.
Oui, et n'attendez pas une multitude de prises de parole aujourd'hui. L'exécutif va faire profil bas. Ça ne sert plus à rien de parler, confie un proche d'Emmanuel Macron. Il faut désormais regarder comment se déroule le début de semaine. D'autant que ces derniers jours, le président s'est beaucoup exprimé, parfois en même temps que son Premier ministre, ce qui lui a valu d'ailleurs un certain nombre de reproches. Aujourd'hui, sauf décision de dernière minute, le chef de l'État restera à l'Élysée pour travailler. Matignon s'impose la même cure de silence. Édouard Philippe déposera en fin de matinée une gerbe de fleurs pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Ensuite, il enchaînera des réunions internes à Matignon. Les millions de Français devant leur télé ont sûrement envie de voir autre chose que des ministres au visage patibulaire, plaisante un conseiller. Seuls les ministres les plus exposés feront un dernier tour de piste médiatique aujourd'hui, comme le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari, qui tentera tout à l'heure au grand jury de rassurer les Français sur le dispositif dans les transports pour ce lundi totalement inédit.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Le ministre de l'Éducation s'exprime en tout cas ce matin. L'école ne sera pas une garderie, prévient Jean-Michel Blanquer dans le journal du dimanche. Il souhaite, je cite, que tous les enfants puissent retrouver leur classe au moins une fois avant la fin du mois. Il ajoute que près de 86% des écoles seront ouvertes demain.
Un déconfinement progressif, on le rappelle.
Bah oui, il faut à tout prix que le bilan ne reparte pas à la hausse. Ces dernières 24 heures, 80 personnes sont mortes du coronavirus. C'est le chiffre quotidien le plus faible depuis le début du mois d'avril. Donc surtout ne pas relâcher ses efforts. On le sait, deux nouveaux foyers, l'un en Dordogne après des obsèques qui ont réuni trop de monde, et puis le dernier en date dans un collège de la Vienne où des professeurs s'étaient retrouvés pour préparer la rentrée. 4 membres de l'équipe ont été testés positifs jeudi et samedi. 9 autres sont en quatorzaine, selon le rectorat de Poitiers. Puis comme en Dordogne, il a fallu à chaque fois remonter les chaînes de transmission potentielles. Écoutez les précisions de Michel Lafourcade, directeur régional de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons employé les méthodes qui, jusqu'à ce jour, nous ont permis de maîtriser le cluster, c'est-à-dire une intervention très rapide, une recherche la plus exhaustive possible, en tout cas la plus engagée des cas contacts. Parce que le risque, c'est d'en rester à la réponse un peu évasive en première intention. Les gens pouvant se dire, je ne suis pas là pour expliquer ce qu'est ma vie, parfois la plus intime, je ne suis pas là pour dénoncer, entre guillemets, des gens. Simplement, c'est vraiment l'avenir dans les prochains jours qui le dira, si dans cette zone-là, nous avions d'autres cas suspects ou d'autres personnes qui manifestent quelques signes symptomatiques.
Michel Lafourcade, directeur régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine. Et résultat, l'établissement de Chauvigny, où il y a eu contamination dans la Vienne, restera fermé au moins jusqu'au 27 mai.
Alors Agnès, on sait qu'il y aura d'autres contaminations. Reste à savoir à quelle échelle cela se fera et surtout la gravité de l'infection.
Et justement, à l'hôpital de Strasbourg, les spécialistes de l'imagerie médicale en 3D viennent de représenter des poumons de patients atteints du Covid. Alors ça leur permet d'évaluer en quelques minutes seulement la sévérité de la pathologie et du coup anticiper pour savoir quels seront par exemple les patients qui devront être intubés, Yannick Holland.
Grâce à leur logiciel, les chercheurs strasbourgeois peuvent afficher en 3D les poumons d'un patient infecté par le Covid-19 avec son score de gravité, c'est-à-dire le pourcentage exact de volume touché, un calcul impossible à faire à partir de simples images de scanner. Le professeur Luc Soler, président de Visible Patient.
C'est ça la différence, c'est ce calcul du volume. Avant, on n'avait qu'un rendu en coupe, comme si on découpait le patient en tranches, qui n'était pas facile à comprendre, alors que là, on a un calcul précis, en dessous d'1% de précision. Avec le système automatique, ça prend 2 minutes.
Ce score de gravité de l'infection, calculé par le logiciel, permet aux médecins d'anticiper et de choisir dans quel service il faudra placer le patient. Le professeur Pierre Dimunch, responsable du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Strasbourg.
Vous pensez bien que pour nous, c'est une réelle aubaine. C'est une aide extrêmement précieuse à la rapidité de mise en œuvre du juste traitement. Et peut-être que les patients auxquels on peut éviter l'intubation sont dans une situation tout aussi bonne, voire meilleure.
Les médecins strasbourgeois vont maintenant étendre leur étude à 1000 patients du Grand Est pour trouver le seuil exact, le pourcentage de poumons infectés à partir duquel on peut prédire qu'un patient devra être intubé ou au contraire qu'il pourra rester simplement sous oxygène.
Une très belle innovation, le reportage de Yannick Holland pour RTL.
Restez bien avec nous, la suite du journal d'Agnès, c'est dans un instant bien sûr. Il est 8h07 avec un Jean-Michel Aulas qui craint un massacre pour Lyon et le PSG en Ligue des Champions.
RTL Matin.
Bonjour.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, bon éveil à vous tous. Oui, le match retour de Ligue des Champions contre la Juventus aura lieu le 7 août prochain à Turin, à huis clos.
C'est Jean-Michel Aulas, en personne le patron de l'OL, qui le confirme. Il était l'invité dont refait le match sur RTL hier soir. Il ne s'est pas privé de pousser un nouveau coup de gueule. On envoie Lyon et le PSG au massacre, selon lui, sachant que les équipes adverses auront repris depuis longtemps la compétition. Jean-Michel Aulas, qui par ailleurs soutient l'appel d'Antoine Comboiré ce matin dans l'équipe, l'ancien entraîneur de Toulouse, trouve que la relégation de son club et celle d'Amiens sont injustes. Il demande une Ligue à 22 la saison prochaine, une Ligue 1. Pour se faire entendre, il appelle les joueurs et entraîneurs à faire grève. Et puis Roland Garros à huis clos du 20 au 27 septembre prochain, pourquoi pas, même sans le public, cela permettrait les partenariats, les droits télé, une part non négligeable selon Bernard Giudicelli, le patron de la Fédération française de tennis. Toute cette actualité évidemment sera évoquée avec Eric Silvestro dans On refait le sport de 19h30 à 20h ce soir sur RTL en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Et si le confinement était un révélateur de stars?
Ryan est en train de vivre un rêve. Ce jeune Marseillais de 19 ans a pris l'habitude de jouer du saxo tous les vendredis et samedis soirs sur son balcon. Il voulait à sa façon soutenir les soignants. En revanche, il ne s'attendait pas à un tel succès, Hugo Hamelin.
Oui, c'est ça. En à peine 6 semaines, la notoriété de Ryan Sachs a explosé dans son quartier, bien sûr, mais surtout sur le réseau social Instagram.
Il se trouve que la deuxième vidéo a complètement pété. 1 400 000 vues. J'ai reçu énormément de messages du personnel soignant. Là, on est plus de 50 000 sur la page Instagram, ce qui est juste énorme. Et c'est cool que ça aille jusqu'à là, justement, c'est fou.
Fou, complètement fou, à tel point qu'il a dû arrêter de jouer chaque soir à 20h.
Ça a été des rendez-vous quotidiens et maintenant, justement, l'ampleur est telle qu'on a dû stopper ça ou le faire, justement, par surprise parce que les gens s'organisaient. Il y en a qui faisaient même des 1h, 1h30 de route pour venir me voir. Carrément, les rues étaient bondées et mon but à moi, c'est pas de rassembler des personnes.
Cet étudiant en médecine va maintenant essayer de capitaliser sur cette nouvelle notoriété numérique. Il jouera sur la scène du Delta Festival à Marseille en septembre, soutenu par ses premières fans, ses voisines, qui elles-mêmes l'ont découvert sur le net.
Voilà, on l'a découvert à travers ce réseau social et j'espère qu'il pourra se faire connaître internationalement.
C'est génial. Alors moi, j'ai pas eu du tout le même succès dans ma rue en chantant. Bizarre. Reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et puisque l'on parle musique, la mort d'un géant ce samedi. Little Richard, considéré comme le pionnier du rock'n'roll, avait 87 ans. Il a inspiré un très très grand nombre d'artistes comme James Brown, Mick Jagger, mais aussi les Beatles, s'il vous plaît.
Rien que ça.